mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir. Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Schiste pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Schiste 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Attention, 1, 2, 3...
Et bienvenue à votre émission d'actualité internationale chez le voisin à Schiste 94.3. Rebonjour Sébastien, ça va bien?
Ça va bien toi?
Ben très bien, écoute, même que je veux dire, c'est la première fois que j'ai écouté un match des Canadiens cette année hier. Puis autant je suis pas un fan, autant je veux dire, c'est un bon retour aux sources. Juste écouter du hockey, surtout à ce temps-ci, tu sais, t'es genre, ben il y a plus personne
ouais,
d'habitude qui écoute ça.
En juillet, effectivement.
C'est spécial.
Je vais seconder là-dessus. Moi, j'ai joué au hockey longtemps, mais depuis que j'ai arrêté de jouer au hockey, on dirait pas que j'aime pas écouter le hockey, juste que ça donne pas souvent ou je prends pas le temps de l'écouter. Puis les trois dernières parties, j'en ai écouté une partie de la partie. Là, tu sais, là, puis hier, j'ai écouté la première période. Puis regarde, au début, ils se faisaient manger. La glace devait être pas mal plus usée dans le coin du Canadien au début. Là. Mais finalement, ils ont scoré un beau but. Puis en finale, hey, ça a fini un supplémentaire 3-2.
3-2 en plein ouais. Ça. Ils ont survécu à une infériorité numérique assez qui aurait pu être dévastatrice, qui ne l'a pas été finalement. Ils ont survécu, comme on dit. Là. C'était serré, puis tu voyais que Lightning voulait gagner puis voulait avoir sa coupe tout de suite. Mais écoute, ça va être pour un autre jour si le Lightning l'emporte, parce qu'il y a toujours des chances que le Canadien l'emporte.
Je pense que j'ai lu que c'était uniquement arrivé une fois dans l'histoire qu'il y avait une équipe qui tirait en arrière 3-0.
Une fois, je ne sais pas, mais
4-3.
Apparemment, Los Angeles ne savait pas si longtemps que ça. Puis je pense pas que c'est arrivé une fois, mais c'est arrivé très rarement. Puis je pense que Los Angeles, 2014-2015.
En finale de la Coupe Stanley?
Finale de la Coupe Stanley, okay, si je ne m'abuse.
Peut-être que je me trompe.
Mais... peut-être que je me trompe aussi. Il faudrait que je regarde mes affaires.
On pourrait demander à un de nos statisticiens de checker pendant ce temps-là. Puis, ben regarde, moi, honnêtement, moi, ce que je disais hier, c'est le crime, ça serait le fun qu'on gagne une. Tu sais, au final, si on mettait un gun sur la tête et on me disait hey, qui va gagner la Coupe Stanley, je t'avoue que je dirais le Lightning va gagner la Coupe Stanley.
Mais j'ai le goût de faire une remise de prix tant qu'il n'y a pas avoir remis de la Coupe Stanley hier. Remise de prix à la pire fan de hockey au monde. J'ai nommé la mairesse de Tampa Bay. Je sais pas si tu l'as entendu parler.
Non.
Mais il y a plusieurs personnes qui ont bien ri et le Lightning a un peu moins ri. La mairesse a dit « J'espère qu'ils perdent à soir, comme ça ils vont gagner la Coupe Stanley à Tampa Bay. » Je suis désolé, madame la mairesse, mais c'est pas comme ça que ça marche. S'ils perdent à soir, ils ont encore des chances de perdre la Coupe Stanley. Fait que moi, j'aurais souhaité qu'ils gagnent peu importe c'est où. Mais écoute, il y en a qui voient pas ça comme ça. Moi, je me suis dit peut-être qu'elle aimerait avoir un peu plus de retombées à Tampa Bay, tu sais, puis plus de visiteurs, ainsi de suite. Mais bon, clairement, elle, c'est pas la Coupe Stanley qui l'intéressait. C'était les fans qui allaient dépenser la soirée, possiblement de la victoire de Tampa
Bay. Possiblement, casser la ville.
C'est ça. Aussi, aussi, tu sais. Ben, en même temps, voilà, moi, je me dis, ben, écoute, si son trip, c'est de casser sa ville, il va en avoir des fans pour casser sa ville. Moi, j'aurais dit, tu sais, tant qu'à être à Montréal, laisse les gens casser des affaires là-bas, puis tu auras ton défilé. Tu sais, anyway, il y a un défilé de la Coupe Stanley d'habitude et ainsi de suite. Mais bon, fait que remise de la pire fan de hockey au monde, c'est Madame la mairesse de Tampa Bay, dont je n'ai même pas le nom. Est-ce que ça vaut la peine de dire son nom quand t'es aussi peu investi dans ton sport? Je pense pas. Donc, malheureusement, elle écope de ce prix citron de l'année.
Ouais, mais écoute, ouais, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça, mais regarde, moi, je vais faire une petite nouvelle aux States qui est un peu inusitée aussi, tant qu'à parler d'affaires de même, mais ça reste très impressionnant. Un homme qui s'appelle Joey Chestnut, il a fracassé son propre record, puis il a signé sa 14e victoire au traditionnel concours de hot dog Nathan's Famous du 4 juillet, parce qu'évidemment, c'était la fête de l'indépendance des États-Unis avant hier.
Qui ne raccorde pas hot dog et fête nationale
ben,
des États-Unis?
Puis check bien ça. Chestnut, il a englouti 76 hot dogs en seulement 10 minutes. Puis là, ben, tu sais, cette année, il a dit qu'il était bien content, parce que l'année passée, ça s'était passé en huis clos. Il a mentionné que les spectateurs lui avaient manqué. Puis chez les femmes, c'est tout de même super impressionnant, mais c'est assez étonnant. Il y a une si grosse différence. C'est Michelle Lescaut. Elle a mangé 30 hot dogs et 3 quarts en 10 minutes. Puis elle a qualifié sa victoire de sensation exceptionnelle. Fait que là, moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que c'est Chestnut qui est capoté puis qui en mange tellement? Ou est-ce que c'est juste que les femmes ont une moins grosse capacité de manger des hot dogs? Je sais pas. Toi, tu penses que t'en manges combien en 10 minutes? Tu sais, mettons, là, tu t'es dit, OK, à soir, je mange des hot dogs. Fait que là, évidemment, tu te prépares en conséquence, c'est-à-dire que tu manges pas beaucoup. T'as 10 minutes, faut que tu manges le plus de hot dogs possible. Moi, sachant que j'allais te poser la question, j'y réfléchis un petit peu.
OK, ça, c'était ta grosse philosophie de la soirée hier.
C'était ma grosse philosophie, puis c'est une vraiment bonne question. Moi, je suis quand même relativement gourmand. Je pense que je me rends en 10 minutes, peut-être 12, 13.
Ah ouais? Pas payé. Moi, je me serais dit à la limite, mais ça, c'est dans ma jeune jeunesse, là, je veux dire, j'ai 24 ans, mais je sais déjà que j'ai comme commencé à un peu moins manger, puis déjà, je suis comme après 6, probablement que je serais tanné, mais à un rythme soutenu, je serais sûrement capable de faire presque 1 minute, puis là, on dirait que je me surestime. Franchement, peut-être que 6 à 8, mettons, en une minute. Là,
moi, j'ai 12-13.
Tu sais, j'irai aux toilettes tout de suite après. Je te dis tout de suite.
C'est ça. Il y a comme des questions qui viennent de ça, puis tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder voir s'il y a la vidéo de la ouvre les guillemets, performance, ferme les guillemets de Chestnut, puis je le mettrai honnêtement sur notre page Facebook que vous devriez aller suivre d'ailleurs. Mais j'ai comme deux questions. Un, est-ce qu'ils se font dégueuler après, tout de suite après? J'ai comme l'impression que ça serait la chose logique à faire. Puis deux, s'ils se font pas dégueuler, arc le lendemain.
Ouais, ou ils vont en hibernation. T'sais, ils ont tellement mangé que genre ils ont des réserves pour, je sais pas, les 3 prochains mois, ils vont dormir puis ils reviennent jusqu'au prochain tournoi. T'sais, quelque chose comme ça. Ça, c'est plein de théories qui pourraient s'appliquer, mais effectivement, quand tu dis qu'il fracasse les limites de son corps, là,
hey, 76
c'est plus humain rendu là. Là, c'est effectivement, c'est quand je dis hibernation, un ours ferait ça puis je serais pas surpris, mais là c'est un humain.
Tu sais, il en mange quoi, 7 la minute?
Ben, ouais, c'est ça.
Un hot dog aux 10 secondes.
Ça, tu sais, ça doit être impressionnant. Puis là, moi, je mets des guillemets à impressionnant, mais surtout pas très ragoûtant. Regardez, je sais pas pour toi, là, mais quelqu'un qui prend des hot dogs puis qui se le met d'en face, puis tu le vois disparaître dans 2 secondes, puis là, t'es genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu le vois grossir à vue d'œil tellement ça va vite. Je sais pas si je serais genre écœuré ou impressionné de regarder ça. C'est là que mes doutes embarquent, mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui se réjouissent. Je présume, tu sais, c'était aussi de fêter non seulement le retour de la fête nationale des États-Unis, mais le retour de la fête nationale des États-Unis en présentiel. Comme tu as dit, la COVID qui avait un peu scrappé, je pense, l'été passé, c'est ça que tu as dit. Donc, tu sais, célébrons comme on peut. Puis ici, aux États-Unis, c'est de manger 76 hot dogs en 10 minutes. Ben, allons-y, allons-y.
Ouais, regarde, je vois sa photo présentement. C'est Joey Chestnut sur le
Y a-tu l'air d'un gros
le
gars?
Le Associated Press, non, man. C'est vraiment pas okay. Un gros. Il est relativement laid, mais je veux dire, c'est pas un gros.
On n'est pas là pour juger de ça. On est vraiment là pour juger de ses capacités.
C'est vraiment sur toutes les nouvelles. CTV, The Guardian, tu sais, c'est comme une star, un peu, là, Chestnut. En tout cas, on le salue s'il écoute en ce moment. Bravo.
Si le Lightning ou le Canadien n'ont pas encore gagné la Coupe, lui, il a gagné sa propre Coupe et une reconnaissance mondiale qui, je ne savais même pas, tu pouvais avoir.
Franchement, mais je sais pas si la femme, c'est sa blonde. Il me semble qu'il devrait...
Ben oui, le beau couple de genre. Puis elle peut suivre, tu sais, son rythme. Tu sais, quand ils se font des soupers, ça leur coûte 200$ la shot. Ouais, mais
moi, ouais, parce qu'ils ont l'air comme. Tu sais, ils ont des méga trophées, là. Méga trophées. Puis ils ont même des ceintures style WWE, là. En tout cas, bref. Mais c'est quand même une nouvelle internationale que je trouvais impressionnante. C'est rare qu'on parle de ça. C'est sûr que j'ai pensé à eux l'année passée dans la pandémie. Ça devait pas être facile. Ouais. Seul chez vous, là.
C'est ça. Ouais, ça te fait être plate en seul zoom, chez vous, faire pas ton fan. Puis...
C'est pas facile, mais regarde, on va passer aux choses plus sérieuses, puis je te laisse le micro pour une première
Oui, puis justement, tant qu'il a parlé de pandémie, je vais faire un petit retour, pas trop dramatique, parce que ben tout va relativement bien. Je pense que dans 2 semaines, on rouvre complètement en Grande-Bretagne. Là. Ça va être fini là, au Royaume-Uni, les restrictions complètement. On avait ralenti la réouverture à cause d'une certaine recrudescence, entre autres à cause du variant Delta. Et là, on est en Espagne. Moi, je vous amène. Si en Grande-Bretagne, ça va un peu mieux, en Espagne, c'est le contraire. On a décidé, en fait, de reconfiner. Je suis assez surpris, même si c'est pas un reconfinement majeur, là, puis de tous les secteurs, de toutes les régions, ainsi de suite. Mais malheureusement, vous allez comprendre très vite qu'est-ce qui a mené à ça. C'est que l'Espagne s'est concentrée assez intensément à vacciner donc les plus vieilles tranches de la population, ce qui laisse les jeunes en bas de 30 ans très très peu vaccinés. On parle de une personne sur 10 dans entre 20 et 30 ans qui sont vaccinés et 0,7 pour ceux en bas de 20 ans. Donc c'est très très peu et malheureusement ce sont aussi eux qui profitent de la fameuse nightlife, hey, je me prononce très mal, mais de Madrid, puis il n'y a pas juste Madrid, là, Barcelone, puis d'autres régions de l'Espagne. On sait qu'ils adorent fêter, ils adorent leur vin, ils adorent leur sieste en Espagne, sauf que ça fête peut-être un peu trop fort, et surtout, c'est les jeunes qui ne sont pas vaccinés qui fêtent. Donc, ben, veut pas, il y a une exceptionnelle recrudescence des cas, malgré le fait que le pays soit relativement bien vaccinés, sauf que les gens qui sont vaccinés, ben c'est pas eux qui vont dans les bars, dans les clubs, danser, même dans les parties, tu sais, de plage là-bas. Il y a le party des finissants aussi, tu sais, les écoles, ça ferme bientôt, c'est comme les vacances d'été. Donc, tout ça combiné ensemble fait que, ben, les jeunes pas vaccinés d'Espagne, profitent à la COVID, même si profiter à la COVID, on espère pas trop ça. C'est plutôt nuisible pour nous. Mais donc là-bas, ben, les clubs vont écoper, puis il y a plusieurs clubs qui vont fermer à cause de ça. Pas besoin de te dire, Seb, toi qui as géré un gym qui a dû fermer pendant un bon bout, les clubs, eux, sont encore fermés au Québec, tu sais. Donc, pas besoin de te dire que là-bas, on est un peu frustré, puis on a dit, ben regardez, peut-être éviter, tu sais, rendre plus strictes les règles concernant les fameux parties, tu sais, de finissants, les parties illégaux sur les plages, les rassemblements de trop nombreuses personnes, parce que eux, ben là, ils vont refermer, mais les parties vont pas nécessairement arrêter, tu sais. Je t'ai parlé des fameuses plages en Espagne, c'est paradisiaque, eux, ils sont à côté de ça, fait veut pas, il y en a des parties, que ce soit dans les clubs ou pas. Mais bon, l'Espagne a malheureusement décidé de couper là-dedans. Il y en a qui vont fermer au complet. Il y en a d'autres qui vont voir leur temps d'ouverture diminuer. Donc, au lieu de 3 heures du matin, la fermeture, c'est 1 heure du matin. C'est pas aussi dramatique, mais il y en a qui vont être plus affectés que d'autres. Il y a des régions qui sont plus affectées que d'autres. Donc, tu sais, c'est pas juste entre les commerçants. Il y en a qui vont profiter de la situation, qui vont être les seuls ouverts, alors qu'il y en a d'autres qui vont être fermés. Très hâte de voir, tu sais, est-ce que ça va durer? J'espère pas. Surtout qu'ils ont déjà été affectés grandement, ces propriétaires-là. Puis, comme je te dis, la situation a l'air d'être beaucoup plus complexe que juste, tu sais, les gens qui vont dans les bars puis dans les clubs, là. C'est une affaire de balles de finissants, une affaire de party, tu sais, de jeunes et ainsi de suite. Puis aussi, un gros manque de vaccination des autorités espagnoles envers les jeunes, tu sais, ils ont complètement abandonné cette tranche-là puis se sont concentrés sur les plus vieux. Alors que, bon, ben, les jeunes sont aussi un facteur de transmission, tu sais. Fait que ça.
D'autant plus à cause de leur mobilité, tu sais. Clairement, voilà, que les jeunes, probablement, sont plus un vecteur pour donner le vaccin parce que, justement, tu sais, ils vont se rejoindre, ils vont se réunir, ils vont bouger beaucoup plus, ils vont être beaucoup plus actifs. Puis ma crainte par rapport à l'Espagne dans tout ça, c'est que, un, on sait que ça a été une hécatombe là, pendant les premières vagues. Puis tu sais, je pense au tourisme. Tu sais, c'est assurément un pays qui a une partie de son PIB relativement importante qui est directement attribuée au tourisme. Puis t'as bien beau dire, ah, tu sais, ça, peut-être que ça affectera pas tant le tourisme parce que c'est plus les jeunes, les bars, mais ça reste que si moi j'ai envie de faire un voyage, là, puis je regarde les destinations que je peux aller, évidemment que je vais prendre la COVID en considération. Puis je vois qu'en Espagne, ça va pas super bien, mais c'est sûr que je vais d'emblée l'écarter pour aller vers un autre pays. Puis je sais qu'en Catalogne, effectivement, présentement, ça va pas bien. Ils commencent à reconfiner, les hospitalisations augmentent. Fait que je suis triste un peu pour l'économie, là.
Voilà. Heureusement, les hospitalisations, bien qu'il y ait des centres d'urgence qui soient un peu plus en demande, les hospitalisations graves, ben, sont en moins grand nombre puisque ce sont des jeunes qui sont affectés principalement, mais ça reste qu'on veut éviter que ça devienne plus grave que ce l'est déjà, surtout que le variant Delta n'est pas encore arrivé en Espagne. Donc, ça pourrait déjà qu'on a une sorte de quatrième vague alors que le variant Delta n'est pas arrivé. On crée un peu le pire, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est un peu plus sévère du côté des clubs et des bars, même si c'est peut-être pas la solution optimale en ce moment au pays, alors que, tu sais, ce qu'on pourrait faire, c'est de vacciner massivement les jeunes qui, eux, sont pas vaccinés puis qui n'ont pas été la cible de la campagne de vaccination du gouvernement espagnol. On va voir comment ils s'en tirent en espérant que ce soit juste passager. Puis heureusement, en ce moment, il n'y a pas trop d'hospitalisation, même si on essaie justement d'éviter ça. Très hâte de voir comment ça va se développer, surtout que, tu sais, ici, on parlait, puis je pense... Christian Dubé a dit qu'il voulait pas reconfiner puis que c'était pas une option. Donc, tu sais, que ça arrive en Espagne, est-ce que on est trop optimiste ici ou au contraire, c'est justement que l'Espagne est en train de faire une erreur puis que c'est pas la solution? Moi, je suis, tu sais, étonnamment d'accord avec Christian Dubé dans le sens où, de manière optimale, faudrait pas reconfiner. Les gens seraient pas d'accord, ça marcherait pas, ça scraperait l'économie pour très peu de raisons alors qu'on est en train de vacciner massivement. Mais c'est un autre appel, tu sais, à se faire vacciner parce que, tu sais, en Espagne, les gens qui créent une nouvelle vague, c'est les gens qui sont pas vaccinés. Puis même si c'est juste, admettons, le quart de la population qui est pas vaccinée, au Québec, le quart de la population, c'est 2 millions de personnes. Fait que, tu sais, c'est quand même un gros bassin de gens qui peuvent être des vecteurs de contamination. Donc, tu sais, c'est de continuer à se vacciner puis pas de se dire que c'est fini. Puis si Christian Dubé dit qu'on se reconfine pas. Tu sais, Trudeau, il a dit « soyez prudents ». Puis Trudeau, dans sa grande diplomatie, j'ai le goût de dire, là, mais lui qui s'est jamais très prononcé, qui est toujours prudent là, pendant la COVID. C'est dur de voir où c'est qu'on s'en va avec tout ça, là, mais c'est juste qu'en Espagne, c'est pas un indicateur qui est un peu triste à regarder, dans le sens tout le monde disait qu'on se reconfinerait pas, puis l'Espagne fait exactement ça. Ouais. C'est un peu plate, puis j'espère que ça arrivera pas ici. Mais la différence, c'est qu'ici, on a relativement une tranche de population jeune qui est plus vaccinée qu'en Espagne. C'est pas 10%, c'est pas 0,7% chez les en bas de 20 ans. Je pense que c'est quand même un peu plus haut que ça. J'ai pas les chiffres précis, mais on a cet avantage-là comparé à l'Espagne qui est un peu cafouillée de ce côté-là avec ses vaccins.
Ouais, puis effectivement, j'espère que t'as raison parce que, tu sais, j'espère qu'on ne reconfinera pas, ne serait-ce que pour l'adhésion des Québécois. Mais, tu sais, d'un autre côté, ça ne serait pas la première fois que le gouvernement parle d'un côté de la bouche puis agit de l'autre côté. Là. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ont dit qu'ils feraient ou qu'ils ne feraient pas, puis qu'au final, on s'est quand même beaucoup fié à ce que nos voisins européens ou nos voisins aux États-Unis font. Fait qu'effectivement, j'espère qu'on ne reconfinera pas. Moi, je vais embarquer dans un sujet qui est relativement complexe puis que je vais essayer de vulgariser. Mais qui peut avoir des grosses incidences sur le prix du pétrole à la pompe. Fait que la semaine passée, il y avait une rencontre de l'OPEP. Puis là, il y a un face-à-face avec un résultat important qui a lieu présentement entre l'Arabie saoudite puis les Émirats arabes unis. Puis le résultat, ça va un peu redessiner le prix du pétrole puis son utilisation qu'on fait dans les prochaines années. Vendredi passé, les Émirats arabes unis y ont bloqué une entente de l'OPEP entre la Russie principalement et l'Arabie saoudite, qui, eux, voulaient augmenter la production de pétrole, mais les Émirats arabes unis, eux, ont demandé des meilleures conditions pour eux-mêmes. Puis là, avant de continuer, je vais prendre un petit recul. L'OPEP, essentiellement, eux, ce qu'ils font, sont, si je ne me trompe pas, 23 pays qui se réunissent. Normalement, ils se réunissent moins souvent que présentement, mais c'est eux qui vont contrôler un peu la production de pétrole mondial par rapport à est-ce qu'on en produit plus, est-ce qu'on en produit moins, pour essayer d'avoir une certaine stabilité des prix. Puis là, bien, vous savez bien que l'année passée, du moins pendant toute la pandémie, évidemment qu'ils ont énormément baissé la production de pétrole parce que, je veux dire, comme vous le savez, les avions volaient pas, les gens étaient confinés à la maison, donc il y avait une demande de pétrole infiniment inférieure que ce qu'elle est présentement. Puis là, bien, présentement, pourquoi ils se réunissent un peu plus souvent? C'est simplement parce que l'OPEP essaye un peu de jongler avec les réouvertures qui se passent présentement. Est-ce qu'on en fait plus? Est-ce qu'on en fait moins? Dans les derniers mois, ils ont commencé à réaugmenter le pétrole qu'ils mettaient sur les marchés. Puis là, évidemment, il y a toujours beaucoup de variables. Il y avait l'Inde qui était confinée, c'est une grosse variable parce que c'est un gros consommateur. Il y a l'Iran qui allait possiblement revenir ou commencer à pouvoir exporter son pétrole. Il y a énormément de variables. Les principaux joueurs sont évidemment l'Arabie Saoudite, la Russie et les Émirats Arabes Unis dans une certaine mesure. Fait que là, ils devaient s'entendre pour commencer à augmenter, à réaugmenter plutôt à partir du mois d'août. Mais là, comme j'ai mentionné, les Émirats Arabes Unis, eux, ils ont dit, garde, ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord pour que la Russie et l'Arabie Saoudite continuent à augmenter parce que nous, on veut pouvoir en produire plus, selon ce que je vais revenir dans pas long. Fait que le stand-off, ça s'est poursuivi toute la fin de semaine, puis hier, ils n'ont pas réussi à arriver à un consensus, puis ils rappellent que le prix du pétrole est présentement à 75-77 $ US, qui s'en va bientôt vers le 80. Puis la prochaine rencontre n'est pas encore cédulée, puis ça a comme impact direct que la production ne sera pas augmentée en août, puis alors que les économies réouvrent. Puis il y avait déjà augmenté de 2 millions de barils de jour au mois de mai et juin, puis on estime que la demande va augmenter de 5 millions de barils par jour supplémentaires au mois de janvier, puis ça va encore augmenter pour la deuxième moitié de l'année dans laquelle on se trouve présentement. Donc, à Abu Dhabi, ce qu'ils font présentement, c'est que toute l'imbroglio est sur le mot baseline. Baseline, ça veut dire qu'à tous les deux ans, ils négocient une limite que les pays peuvent produire. Puis quand le PEP réduit ses capacités ou augmente ses capacités pour l'arrimer à la demande mondiale à venir, mais c'est à partir du baseline de chaque pays qu'ils font. Puis présentement, à Abu Dhabi, il y a un baseline de 3,2 millions de barils, mais lui considère par jour, mais lui considère que ça devrait être 3,8 millions de barils par jour. Évidemment, il veut en vendre plus parce que ça va lui rapporter plus d'argent, il va pouvoir mettre plus d'argent dans son économie, et etc. Puis les renégociations du baseline, ils se font uniquement à partir de avril 2022. En avril 2020, les Émirats Arabes Unis, comme tous les autres pays, avaient accepté leur baseline, mais depuis ce temps-là, ils ont énormément investi dans leur capacité de production de pétrole. Donc là, ils sont là, hey, nous autres, on veut en produire plus. Fait que là, ben, ce qui pourrait arriver à travers ça, ben, c'est soit que les Émirats Arabes Unis vont accepter les conditions, ou c'est ceux qui vont briser l'alliance. Puis s'ils commencent à briser l'alliance, ben ça pourrait être dramatique, ça pourrait être un genre de free-for-all qui résulterait assurément à une guerre de prix. Puisqu'on a déjà vu des choses comme ça. Dans les années 90, il y avait Caracas, donc le Venezuela, qui avait eu une guerre de prix avec Riyad, puis ça avait amené le baril du pétrole à 10$, le prix du baril du pétrole. Dans les années 2000, tu avais l'Algérie, mais eux, ils avaient pu augmenter leur capacité de production de 60% à cause de la grosse demande de la Chine, mais ça reste que là, présentement, est-ce que le tu sais, évidemment, vous comprenez que quand le prix du baril de pétrole augmente, ben à la pompe, indirectement, ça résulte que nous, les consommateurs, on paye plus cher. Fait que là, hier, c'était comme la dernière journée. Ils n'ont pas réussi à trouver une entente. Fait qu'à suivre, voir qu'est-ce qui va se passer. En résumé, c'est essentiellement Abu Dhabi, donc les Émirats Arabes Unis, qui sont dans un stand-off contre l'Arabie Saoudite puis la Russie, qui, eux, veulent augmenter, mais les Émirats Arabes Unis, eux autres, disent « Hey, nous aussi, on veut augmenter, mais on veut augmenter plus parce que notre baseline il est trop bas. On voudrait augmenter encore plus notre production. » À suivre, qu'est-ce qui va se passer? Les tensions sont très fortes, puis ça se résulte. On le voit présentement, le prix du pétrole augmente. Puis au final, pendant que les économies réouvrent, s'ils n'augmentent pas au mois d'août, parce que là, présentement, ils n'ont pas d'entente, ils n'augmenteront pas au mois d'août, ça va faire qu'ils vont avoir une plus grosse demande, ça va faire que le prix du baril de pétrole va augmenter encore. Fait que c'est très possiblement une situation explosive entre ces pays-là.
Oui, ça, ce statu quo en ce moment est vraiment pas favorable, en fait, à toutes les économies qui utilisent le pétrole, que ce soit les États-Unis, le Canada, la Chine, ainsi de suite, parce que ces exportateurs-là, malgré leur conflit, ben, indirectement, ils augmentent le baril du pétrole. Ça les avantage indirectement, même si, bon, eux, ils chialent qu'ils veulent augmenter la production pour en vendre plus. Mais tu sais, à la fin, peu importe la décision qui est prise, ça nous affecte directement. Puis s'il y a plusieurs pays qui n'ont pas leur mot à dire, qui vont directement ben, devoir payer plus, payer moins, qui vont devoir faire affaire avec d'autres partenaires, peut-être économiques, pour avoir accès à cette ressource-là. C'est un peu drôle de... Tu sais, on en a moins parlé de la Russie, mais la Russie a toujours son mot à dire, même dans les conflits, tu sais. T'as parlé de la Russie, moi, j'étais presque surpris qu'il s'ouvrait encore la bouche parce qu'il s'était relativement calmé. À un moment donné, c'était un stand-off entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Maintenant, la Russie est du côté de l'Arabie Saoudite, puis on sait qu'eux voulaient, depuis un petit bout, je pense, augmenter la production. Ouais, là, la Russie, eux, ils veulent ouvrir les valves puis y aller à fond, là, presque. Ça fait que c'est assez surprenant que les Émirats Arabes Unis se retrouvent tout seuls, alors que l'Arabie Saoudite et la Russie, qui étaient des ennemis presque il y a quelques mois, se retrouvent maintenant contre les Émirats Arabes Unis pour bloquer une plus grande ouverture des valves. Fait que j'étais relativement surpris de mon côté, mais évidemment, je comprends pas tout là, de ça. Il doit y avoir des raisons derrière ça qui fait que la Russie ben, a une certaine limite. Puis peut-être qu'il appréciait aussi la montée des prix. Hein, fait que s'il les ouvre trop, veut pas, le baril va baisser drastiquement. La Russie, peut-être qu'ils veulent encore avoir cette même mise-là, surtout qu'ils ont beaucoup de partenaires en Europe. Puis en Europe,
ils ont des gros pipelines, là, la Russie.
Les fameux combats au Nagorno-Karabakh, c'est indirectement lié à ça parce que c'est une région où il n'y a presque personne, sauf des pipelines, puis des grands oléoducs là, où tu peux transporter le gaz, le pétrole. Donc, la Russie, j'étais plus ou moins surpris de leur réaction, mais ce qui était le plus surprenant, c'était de les voir du côté de Riyad, en fait. C'était vraiment ce qui m'a surpris, comme quoi l'argent peut rapprocher comme peut distancier. Mais bon, en même temps, cette organisation-là, ce que je trouve un peu dommage, puis ça, c'est complètement une opinion personnelle, là, mais c'est justement que ces 23 pays-là, qui sont pas des puissances économiques, là, je veux dire, le Venezuela, ça va très, très mal, mais a quand même une sorte de mainmise sur l'économie mondiale grâce à cette alliance-là. Est-ce que ça serait profitable, en fait, que cette alliance-là, tu sais, tu parlais, ça pourrait crasher puis diminuer le baril du pétrole, mais est-ce que ça serait pas profitable pour tout le monde? Parce qu'en ce moment, c'est... T'sais, on peut pas qualifier ça de monopoly parce que c'est pas un monopoly, sauf qu'il y a une corde, un genre de gros conglomérat, puis à la fin, c'est comme il n'y a plus de compétition. Ils décident ensemble du prix, donc y a, t'sais, la compétition est là sans l'être. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire le plus de profit possible. C'est pour ça qu'ils s'entendent sur un prix pour pas se faire compétition entre eux.
J'ai l'impression que ça pourrait être vraiment le bordel, par contre, s'il n'y avait pas une organisation mondiale du pétrole, s'il n'y avait pas une organisation des pays exportateurs de pétrole.
Ça, il y a une certaine stabilité à avoir. Surtout qu'on est tellement dépendant de tout ça qu'effectivement, est-ce que ça créerait, comme tu dirais, une instabilité? Dans quelle mesure, par contre, s'il y aurait une instabilité? C'est-à-dire... Est-ce que si tout le monde ouvre les valves?
J'imagine qu'il y a des pays, pas qui feraient faillite, mais tu as les plus gros producteurs de pétrole au monde qui, eux, pourraient être là. Regarde, moi, là, je fais un. Tu sais, comme exemple, Costco, ils font, là, ils font un prix plancher, on sort ça à côté. Les autres pays sont pas capables de revitaliser. Ils ont investi dans des énormes installations. Ça fait un bordel là. Puis tu l'as mentionné, il y a tellement de conflits que si on enlève une coupe de couche, que les causes sous-jacentes du conflit sont le pétrole. Tu sais, on a juste à penser à. Quand la Turquie, l'année passée, est intervenue en Libye. T'sais, mais ça, c'était parce qu'il y avait une entente pour faire du forage en mer avec le gouvernement de Saïd Farage. T'sais, après ça...
Le conflit avec la Grèce aussi, la Turquie, c'était pour des explorations gazières ou pétrolières, je ne sais plus trop quoi. Donc...
Puis tu sais, je veux dire, là, on nomme ceux-là, là, mais tu sais, je suis assez persuadé là, que, je sais pas, là, si, mettons qu'on prend 50 conflits dans le monde, je serais assez persuadé qu'il y en a 30 là-dedans, là, que parmi les causes, là, c'est l'accès au pétrole.
Ouais, c'est une grosse partie de l'économie de plusieurs pays, puis plusieurs pays dans une région instable. Tu sais, je veux dire, juste à côté de l'Arabie Saoudite, c'est l'Oman, puis il y a aussi le Yémen directement à côté qui est pire que l'Oman. Je veux dire, il y a une guerre civile en ce moment, puis pourtant, je pense qu'ils ont un potentiel pétrolifère assez intéressant, là, le Yémen. Je suis pas trop sûr là-dessus. Mais
c'est rare, je dis ça, pétrolifère, c'est hot.
Pétrolifère, c'est quand même un mot. C'est pas notre mot de la journée. Je pense que moi, j'ai oublié très franchement de vous arriver avec un mot plus fancy que pétrolifère aujourd'hui.
J'ai dit imbroglio tantôt, puis un imbroglio, c'est quand même un mot fancy, entre guillemets, mais qui s'utilise super bien. Un imbroglio, c'est une situation complexe. Une situation complexe qui est pas facile à régler. Fait que, tu sais, on peut assez. C'est l'imbroglio de sa vie amoureuse, là. Tu sais, l'imbroglio des membres de l'OPEP. Fait que je vous conseille d'utiliser, évidemment, faites une petite recherche. Imbroglio, allez voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais moi, c'est un mot que. Bon, c'est pas un mot que j'utilise vraiment en parlant avec des gens en général, parce que t'as l'air, hein, tu sais, si t'as l'air un peu par rapport quand on dit des mots que quelqu'un potentiellement ne comprend pas. Plus c'est un mot, mais c'est un mot quand même assez accessible. Puis si on le popularisait pas, j'aimerais bien ça, entendre des fois des gens, je parlais des gens, puis des gens me disaient, hey, oui, il s'est retrouvé dans tout un imbroglio. Là, j'aimerais ça qu'on me le dise des fois.
Ben, ça va être notre mission, écoute, avec notre très grand auditoire de probablement 14 personnes. Mais non, franchement, il y a du potentiel là-dessus, imbroglio, mot de l'année. Peut-être, si ça remplace COVID ou Coupe Stanley, on verra de ce côté-là. Ça va être dur, hein, à déclasser ces mots-là. Mais bon, en attendant, on a des ambitions, puis on vous les partage. Sinon, on va faire une petite pause, je te conseille, puis on va passer à un très rapide flash info. Après, on va reparler de la Russie encore une fois, mais de l'Ukraine, puis de d'autres sujets comme ça. Mais en attendant, une courte pause publicitaire d'environ une minute, puis on vous revient tout de suite après à Chez le voisin.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Écoute, on revient pour cette deuxième moitié d'émission de Chez le voisin, Seb, puis la lancée Russie m'a encore intrigué, puis là, je voulais continuer là-dessus, surtout que, ben, on parle beaucoup du cours du pétrole, mais on pourrait parler du cours du champagne, si ça existe, là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une association, le comité champagne qui existe, qui s'assure, en fait, de la légitimité d'un produit qui s'appelle le champagne, donc un vin mousseux qui est fait dans la région champenoise, et il y a une méthode qui est associée à ça, ainsi de suite, une terre. Donc, si c'est pas fait dans une certaine région et avec une certaine méthode, la méthode champenoise, vous pouvez pas appeler ça un champagne, puis vous devez appeler ça un vin mousseux. Donc, c'était quelque chose de relativement bien établi. C'est même ce comité-là, cette déclaration-là a été acceptée dans plus de 120 pays, ce qui est amené, c'est rendu une norme, là, c'est-à-dire internationale, mondiale. Mais bien évidemment, Poutine devait s'en mêler. Et Poutine, de son très grand piédestal, s'est dit, ben, écoute, la Russie, c'est quand même, on va se le dire, le plus grand pays au monde. Mais lui, bon, il le voit dans tous les sens. Nous, on le voit surtout, bon, géographiquement, mais à part ça, la Russie, c'est une puissance sans être la plus grande puissance mondiale. Là, maintenant, c'est bon, c'est plus grand-chose. Désolé, Poutine. Là, malheureusement, tu sais, c'est comme c'est les Red Wings de Détroit. Là, tu sais, dans la LNH, il était bon avant, puis là, maintenant, c'est comme une histoire du passé. Mais fini les comparaisons. Lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de se dire, ben, la Russie, c'est quand même le plus grand producteur de champagne, tellement que les champagnes qui viennent de l'extérieur de la Russie n'ont plus le droit de saper des champagnes, même si ça vient de France, de la région champenoise. Donc là, évidemment, toute la France et bon, les producteurs de champagne officiels là, qui sont reconnus à travers le monde, ben, se sont insurgés, se sont dit, ben voyons, ça n'a pas d'allure, c'est même plus, tu fais même plus ton champagne en champagne. Comment tu peux appeler ça? Puis là, bon, l'étiquette, c'est un peu compliqué, mais en français, admettons, c'est écrit sur la bouteille « champagne » en français, donc en caractère latin, ainsi de suite, t'as le droit de le laisser comme ça. Mais sur les inscriptions officielles, donc en cyrillique, l'alphabet russe, ben, t'as plus le droit de mentionner légalement que c'est un champagne. Seuls les vins mousseux russes vont pouvoir s'appeler des champagnes. Et là, ça a créé plein d'émoi un peu partout. Est-ce que t'as le droit de faire ça? Mais évidemment, c'est une affaire qui a été signée hein, par plus de 120 pays et par plus de 120 pays n'inclut pas la Russie. Donc la Russie, je pense, ne reconnaît même pas qu'un champagne ne peut s'appeler champagne que s'il vient d'une certaine région de France. Donc évidemment, la Russie qui se sauve de ça à cause de traités qu'il n'a pas signés. Poutine aussi qui veut, bon, je présume, favoriser l'économie locale. Tu sais, c'était... Ça a l'air petit, mais c'est par des petites lois comme ça passées sur le côté, tu sais, qui fait que ah ben là, ça va favoriser un peu ben l'économie vinicole. Je me rappelle plus, je pense qu'on dit vinicole ou quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais, mais on dirait que moi. On dirait que j'associe plus vodka à Russie
ben
que
effectivement,
champagne.
Mais c'est peut-être qu'ils essaient d'enlever cette étiquette-là du gros bourrin russe qui boit que de la vodka et qu'on l'associe maintenant à une sorte d'élite
J'ai jamais entendu ça. Ah, oh, j'ai acheté un bon champagne russe.
Ben, le dernier vin mousseux que j'ai acheté venait de Hongrie, donc c'est le plus proche de la Russie que je suis allé et je peux te dire que ça goûte le pet. Donc, je me dis, si tu vas plus à l'est, est-ce que ça goûte encore plus le pet? Mais en même temps, tous les goûts sont dans la nature. Peut-être que le pet, c'est une saveur qui attire les Russes.
Est-ce que t'aimerais aller en Russie?
Moi, j'adorerais aller en Russie, sauf que je devrais pas parler comme ça parce que là, je suis en train de me mettre des gens à dos, genre KGB et tout. Moi, je descends de l'avion puis je suis Navalny numéro 2. Là. Ouais. On m'embarque.
Ils vont taxer genre de corruption.
Quelque
genre,
chose comme ça. Là.
Parce que en ce moment, Biélorussie, ceux qui font, là, mais moi, j'aimerais ça y aller. Puis j'ai déjà un petit peu regardé pour y aller en Russie. Le problème, c'est que, comme tu l'as mentionné, c'est tellement un gros pays que, genre, là, t'es là, ah, tu sais, je vais aller à Saint-Pétersbourg. Mais là, tu vas aller à Moscou. C'est fucking loin. T'sais, fait que genre là, t'es là, bon, là, t'sais, c'est forcément un voyage que je dois rester longtemps, si on veut, là, t'sais, parce que moi, souvent, je fais des voyages, t'sais, 7-10 jours, là, puis je veux dire, faut que je revienne travailler. Mais ouais, j'aimerais ça, moi.
Si tu veux voir de la Russie, tu dois passer un peu plus que 7 jours, effectivement, parce que juste le voyage est assez intense. Puis il y a le Transsibérien qui a l'air absolument magnifique, t'sais, puis qui traverse toute la Russie, justement, en passant par la Sibérie. Mais ça, c'est pas une affaire de 2 heures, là. Donc, juste ça m'intéresse effectivement énormément, mais je parle pas un mot de russe. C'est quelque chose que je veux apprendre. Mais bon, en attendant, je dois me contenter de critiquer les législations russes qui se permettre des choses que personne ne se permet. Je suis un peu surpris, c'est tellement random comme nouvelle, mais j'étais comme, ben voyons, encore une fois, l'idée de grandeur des Russes qui dépassent les frontières et qui va insulter les Français à leur porte et dans leur expertise. Donc j'étais comme, bon...
Ouais, je sais pas c'est quoi la relation France-Russie, vraiment.
Pas très très bonne, ils leur ont volé. Y a pas un acteur qui est parti en Russie, justement, là, avec un gros nez et puis un gros ventre aussi.
Ah, ouais.
Mais
c'est pas lui qui t'a accusé
Gérard Depardieu.
D'agression sexuelle, là?
Ah, je sais plus.
Ouais, il t'a accusé
si c'est lui,
mais il est quand même bon, mais ici, il y a de l'ombre.
Tout ce que
lui,
je me rappelle, c'est que c'est lui qui a fait Obélix dans un des films Astérix Obélix.
Il est accusé d'agression sexuelle. Ouais.
Voilà, donc pas le plus gros morceau de la culture française qui est parti, mais ça l'avait insulté aussi beaucoup de Français. Puis là, c'est le champagne qui insulte les Français. Donc j'ai l'impression que la Russie aime bien donner des petits coups d'antibia à la France puis rire
On dirait que j'essaie de réfléchir à savoir s'ils s'affrontent un peu indirectement sur des champs de bataille, mais j'ai comme l'impression que non, ça aurait pu potentiellement en Libye. Parce que
tu sais, en Afrique, là, au Mali et tout, là où il y a des... Ben, c'est surtout des milices russes.
Les Russes sont pas vraiment présents
c'est
beaucoup
ça.
Au Mali. Enfin, bref.
Une grosse question qui est dure de répondre.
Je
mais
pense que non.
En tout cas, au niveau économique, c'est sûr qu'ils ne s'apprécient pas nécessairement, ces deux pays-là. Je vais rester dans la région, je vais aller en Ukraine. Ça, c'est un pays, l'Ukraine. Je me suis fait dire que je disais trop Ukraine puis que, bon, ça fait un peu... gars de région, gars qui s'insulte. C'est peut-être de là que je le tiens, mais je sais qu'on dit Ukraine en anglais.
Mais moi, tu vois, Ukraine, j'aimerais bien y aller, je t'avoue. Moi, j'avais regardé un petit peu faire. Pas en ce moment. Il y a quand même des moments, c'est genre. Il y a des pays, c'est jamais le moment, là. Et moi, je sais pas si logistiquement ça se fait, mais quand je regardais pour aller en Russie, je m'étais dit, peut-être que je pourrais faire Kiev, Saint-Pétersbourg. Tu sais, regarde, au pire, j'aurais pas vu toute la Russie, puis tu sais, c'est pas grave, là. Mais parce que c'est quand même relativement proche, mais je le sais pas, les visas, s'ils sont. Tu sais, c'est comme à dire, je vais aller faire Cisjordanie, Israël, tu sais, peut-être qu'ils vont faire, le grand. Tu sais, c'est pas logique, là, faire ça, là. T'sais, peut-être qu'ils vont te refuser parce que tu viens de Kiev et vice-versa. Mais.
Mais les visas russes sont plus difficiles, je pense, à avoir que les visas ukrainiens, surtout sachant que le Canada est plus proche de l'Ukraine que de la Russie.
C'est une étampe de l'Ukraine en rentrant en Russie.
Ouais, ce qu'ils vont dire, est-ce que c'est un espion qui vient voir si on a des troupes stationnées dans la région? Bref, surtout que le gouvernement du Canada, quand même, ne recommande pas les voyages en Ukraine en ce moment. Mais je me dis, touristiquement, c'est vrai que c'est pas le moment, mais journalistiquement, moi, c'est j'irais là. Tu sais, ça serait le bon moment pour voir ce qui se passe. Puis...
Ouais, j'aimerais ça.
Mais bon. Mais justement, ma nouvelle, c'est concernant le militaire, mais aussi la misogynie. Là, tu vas être genre, ben voyons, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que ben, bientôt, c'est le 30e anniversaire d'indépendance de l'Ukraine. Et ben, il va y avoir un défilé militaire. Et ils ont décidé, dans une très brillante idée tout à fait machiste et médiévale, que certains experts là-bas ont qualifié cette décision-là, de faire marcher les femmes en talons hauts. Ben oui, les militaires de l'armée ukrainienne vont défiler en talons hauts. Il y a des cadets, tu sais, c'est un peu naïf comme réponse. Puis tu sais, c'est comme, ah, c'est plus dur de s'entraîner en talons hauts puis tout. Mais c'est aussi, tu sais, c'est pas normal de s'entraîner. Tu sais, mais je présume que les gens qui commentaient puis qui étaient dans l'armée, qui se pratiquaient pour le défilé, ont une certaine réserve puis peuvent pas trop critiquer l'état-major et ainsi de suite. Donc, tu sais, ils disaient, ah, c'est un peu plus compliqué, mais on s'adapte. Non, tu sais, je veux dire, en même temps,
les pendants masculins, ben eux, ils vont avoir des bottes bien normales pour les défilés, bien plus confortables déjà, bien moins dangereux aussi. Imagine faire un défilé en talons hauts, à quel point genre tu te bêches, tu scrapes la ligne au complet, puis non, c'est tellement une mauvaise idée, puis c'est super rétrograde, là, qu'il y en a plusieurs qui mentionnaient ça. Il y a plusieurs élus même qui ont demandé au ministère de la Défense, ben très bonne idée, mais dans ce cas-là, pourquoi tu te présenterais pas, toi, avec des talons hauts au défilé militaire, en parlant au ministère directement? Fait que j'ai trouvé ça bien, bien drôle, mais pour les dames qui sont dans l'armée, puis qui, tu sais, qui défendent leur pays, on leur demande, tu sais, tout à fait... c'est random en anglais, le mot, là.
Essentiellement, ça n'a juste pas rapport.
Ça n'a vraiment aucun rapport, parce qu'ils font pas ça dans l'armée, c'est pas utile, c'est plus dangereux, c'est...
Est-ce qu'ils vont sur le champ de bataille avec des talons hauts,
tu sais? Ben, c'est ça, c'est même pas... Ça n'a pas rapport. C'est vraiment une norme, puis il y en a beaucoup qui étaient comme, ben, c'est quoi, c'est juste pour plaire, genre...
plaire à qui, tu sais, je veux dire, premièrement, c'est presque assurément des petits talons, fait que, genre, tu sais, c'est pas des talons aiguilles, là, mais tu sais, c'est très genré, puis tu sais, pourquoi, tu sais, dans quelle utilité?
Ben ça, c'est très genré, puis c'est pas utile, puis c'est pas beau. J'ai regardé ça, puis t'as comme les cadettes, puis les militaires en habit d'armée, puis t'as des talons noirs en dessous. J'étais comme, mais c'est quoi le rapport? On dirait genre.
Forcément, sont en jupe ou en.
Non, ils ont l'air d'être en pantalon. Ben, en même temps, j'ai pas vu parce que c'est des pratiques, mais ce qu'ils ont l'air en ce moment, c'est, tu sais, des. Ils vont soit avoir des jupes, tu sais, de la marine ou quelque chose comme ça, ou des pantalons militaires bien classiques, là, camouflage et ainsi de suite. Mais, tu sais, justement, ça avait pas rapport. Ils voyaient s'entraîner, ils étaient comme tout habillés en habit, tu sais, de drill sergeant, puis des affaires comme ça. Puis il y avait des talons. C'était comme, ça sort d'où? T'sais. Ils ont sûrement acheté des talons juste pour ça. C'est la seule fois de leur vie qu'ils vont porter des talons dans l'armée. Puis c'est pour un défilé, pour célébrer, tu sais, l'armée, alors que, tu sais, ces femmes-là se battent jamais en talons, portent jamais des talons. Ils font la même affaire que les hommes, sauf que les hommes, ben, ils ont une dérogation spéciale. C'est pas dans les normes esthétiques de porter des talons hauts, donc ils vont porter leurs bottes bien normales.
Tout le monde en talons ou personne en
talons. Voilà, c'est ça, tu sais, double standard un peu bizarre, là, puis surtout pas nécessaire et absolument esthétiquement laid. Là.
Ou mettre du rouge à lèvres aux hommes.
Ça serait un bon compromis, tu sais, les faire.
Les hommes se battent pas avec du rouge à lèvres, mettent jamais de rouge à lèvres, ça a aussi rapport que mettre les femmes en talons hauts. Tu sais, c'est sûr que c'est relativement anodin aussi, mais c'est juste que ça a comme tellement pas rapport que ben, pourquoi?
Ben, c'est ça, c'est des petites affaires, c'est tellement anodin que justement, tu pourrais passer outre. Pourquoi? Là, ils ont pris une décision spéciale juste pour ça, c'était pas nécessaire. Ils ont pris le temps de genre.
Dans l'administration, qu'il y a un fétiche de talons.
Ben, c'est ça qu'on a dit, tu sais, il était genre, il y a du monde encore qui ont des mentalités médiévales, puis qui ont des idées un peu misogynes, puis hyper sexualisées, là, tu sais. Puis. Ça fait qu'on critiquait beaucoup l'administration pour une décision qui était pas nécessaire du tout, puis qui fait paraître les femmes comme des objets, alors que, tu sais, c'est. Pourquoi ils ont pas le même uniforme que. Tu sais, les autres qui se battent exactement de la même manière, qui ont la même formation et tout. Puis là, c'est juste que, Canada, parce que t'es une femme, tu vois, genre...
Au Canada, ils ont des bottes, là. Ils ont des bottes normales au Canada. Ben, de toute façon, on fait pas vraiment de défilé militaire, là.
Non, mais
c'est juste
aussi,
un
là.
Défilé militaire.
L'Est de l'Europe a une autre tradition envers l'armée, là. Tu sais, il y a beaucoup de... Même en Grèce, tu sais, qui étaient broke à un moment donné, qui avaient plus de cash, il y avait des défilés militaires. J'étais genre, qu'est-ce que vous faites? Mais tu sais, c'est... C'est dans la culture et tout, mais en même temps, c'est pas nécessaire. Puis là, encore une fois, ça montre à quel point, tu sais, l'armée...
C'est très nationaliste, là, un défilé militaire. Ça, là, tu sais, moi, il y aurait un défilé militaire à Québec, tu sais, j'irais pas au défilé militaire. Là. On dirait que ça y est comme une saveur un peu...
Mais tu sais, j'ai dit l'Est de l'Europe, mais la France, là, 14 juillet, c'est bientôt. Puis normalement, il y a un défilé militaire, il va sûrement en avoir un, puis ça va être big, là. Ils sortent les tanks, il y a les avions qui font... qui passe dans le ciel puis qui scrape les couleurs de la France l'année passée. C'était-tu l'année passée ou voilà 2 ans, une des avions projetait une ligne rouge alors qu'il était censé mettre une ligne bleue. Uh-huh. Fait que c'était plus le drapeau de la France, bref. Mais ils sortent toutes, là, les gros gadgets.
C'est sûr que pour des enfants, ça doit être malade. C'est sûr que pour des kids...
Ah ben moi, je te confirme que j'adore ça, hein, chérie, mais...
Le camion de pompiers, c'est malade. Imagine quand ils sortent les tanks, sortent les avions, tu vois les gars avec leurs baïonnettes, leurs fusils, le chapeau. C'est sûr que une petite activité familiale, c'est cool pareil. T'sais. Mais t'sais, on dirait que... Je sais pas, on dirait que c'est, ils mettent de l'argent là-dedans, on dépense de l'argent pour faire une parade militaire, au final, regarde, d'autres ont une parade du carnaval, c'est bien correct.
Ouais, ben en masse. Il est aussi imposant qu'un tank, que notre bonhomme carnaval, fait que pas de honte là-dessus.
Il n'y a pas de complexe en
vrai. Ouais, quand il veut. Puis je finirai avec une autre nouvelle dans la région, j'irai en Géorgie rapidement. Il y a eu, puis c'est hier là, que ça a été annulé. Il était censé avoir la marche de la dignité, donc une marche LGBTQ+, dans un pays qui est plus ou moins gentil avec ces gens des communautés, des minorités sexuelles, en fait. Donc, il était censé avoir une marche. Ce qui est
très drôle puis surprenant provenant d'un ministre, puis même je pense que c'était le premier ministre qui a dit ça, c'est qu'il a dit « Ouais, mais on espère que vous le ferez pas, ça va créer des tensions sociales. » Puis on peut pas assurer votre sécurité à 100%. Déjà, c'était un peu louche comme call, puis c'était comme, OK, fait que dans le fond, on était citoyens, mais nous, notre marche, on n'est pas, tu sais, on n'est pas worthy en anglais, mais bref, on vaut pas votre protection policière et ainsi de suite. Fait que finalement, ça a été annulé tellement il y a eu des violences. Il y a même 20 journalistes qui ont été attaqués sur place parce qu'il y a eu une anti-protestation, une anti-manifestation juste avant. Et là, ben, il y a un local, justement, d'un organisme pour la Pride, justement, là-bas, qui a été attaqué, saccagé. Il y a 20 journalistes qui ont été attaqués. Il y a quelqu'un qui a été attaqué au couteau, même, qui est à l'hôpital. C'était pas un journaliste, là, je pense, par contre. Je mets un petit astérix là-dessus. Je suis pas sûr si c'est un journaliste ou pas, cette personne-là, qui a été poignardée. Mais bref, ça s'est pas... C'était pas de tout repos, cette anti-manifestation-là. Puis même, il y avait beaucoup de gens du gouvernement, de l'Église orthodoxe là-bas, puis des gens de l'extrême droite qui participaient à cette marche-là pour empêcher la communauté LGBTQ de faire leur marche, leur défilé de la fierté. C'est assez triste dans un pays qui est devenu démocratique, ça n'avait pas si longtemps. Et même le premier ministre a dit que la marche LGBTQ était probablement organisée par Saakashvili, ou je veux pas me tromper dans le nom, surtout que je l'ai appris plein de fois, puis là, on dirait que je m'en veux si je me trompe, mais je pense que c'est Saakashvili ou quelque chose comme ça, l'ancien premier ministre dictateur qui a été tassé du pouvoir pour, attention, créer des tensions sociales, mettre le désordre dans la communauté pour préparer un retour. Là, c'était carrément une affaire de complot qui baquait la communauté LGBTQ pour, je veux dire, déranger les conservateurs du pays, l'Église et le gouvernement. Tu sais, c'était comme... Évidemment, toute la communauté LGBTQ était comme, ben, ça n'a pas rapport, là, tu sais. On n'est pas backé par un dictateur, même que je pense que la communauté LGBTQ est plus en vie grâce au départ de ce dictateur-là que, tu sais, avant. Fait que c'est comme, c'est vraiment bizarre comme call, mais encore une fois, ça montre que même au sein du gouvernement, on est encore très orthodoxe, très conservateur, puis qu'on n'est pas encore prêt à donner des droits, alors que, tu sais, on disait justement de défendre la liberté sociale puis la sécurité sociale, mais on n'est pas prêt à assurer la sécurité d'un défilé de la fierté, tu sais. Fait qu'un double discours très, très, très bizarre qui a été décrié par tout le monde. Je pense que le gouvernement du Canada a envoyé une lettre justement pour... ben, on voulait que le défilé ait lieu. Il n'y aura pas lieu, malheureusement. Il n'y a pas assez de mesures qui sont prises pour la sécurité des gens. Puis ça l'a mené à l'attaque de journalistes. Puis les journalistes étaient carrément... On les appelait des collaborateurs de cette marche-là, des complotistes. C'était comme... Ben voyons, c'est pas rapport, là. C'est quelque chose qui se fait dans n'importe quelle démocratie. Puis ça montre que la démocratie est encore jeune et très faillible en Géorgie, malheureusement. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne l'année passée, mais une grosse défaite là, pour les droits de la personne en Géorgie en ce moment.
Puis tu sais, c'est là que tu vois qu'il y a tellement du monde qui sont frustrés par rapport à des affaires comme ça. Tu sais, pas capable d'assurer votre sécurité. Tu sais, ça, c'est comme une flagrante... excuse injustifiée juste pour dire « Hey, t'sais, on a demandé que vous n'y allez pas, là, parce que nous autres, on ne sera pas là pour vous protéger. »
Ça crée un grave précédent.
Ça crée un précédent.
Là, il n'y a personne qui a été accusé ou quoi que ce soit après l'attaque de journalistes puis des gens du local et tout. Puis ça veut dire que cette tranche de la population-là qui est contre la communauté LGBTQ+, il n'y aura pas plus de mesures pour les empêcher de faire valoir leur droit d'expression contre une minorité sexuelle. Fait que, tu sais, c'est... Puis leur droit d'expression, je mets des grosses guillemets parce qu'ils ont attaqué des gens, là, littéralement, puis il n'y a pas eu de mesures pour les empêcher. Je pense qu'il n'y a pas eu d'arrestation, rien. Fait que, c'est un grave précédent. Là, c'est comme tu permets aux gens
là,
de...
Ça va être un petit caillou dans l'eau. Là. T'sais, pour rester un petit peu dans le même genre de nouvelles, c'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu de parler, mais je me souviens que v'là une couple de mois, tu avais parlé de la Convention d'Istanbul. Puis la Convention d'Istanbul, essentiellement, c'était une convention qui promouvoit l'égalité, puis les interdits, puis ça interdit les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, mais c'est aussi beaucoup pour protéger les femmes contre la violence domestique et autres. Puis la semaine passée, Erdogan, la convention d'Istanbul, donc Erdogan qui est le président de la Turquie, Istanbul se trouve évidemment en Turquie, bien, ils ont quitté ils ont quitté la Convention d'Istanbul. Ça, c'est comme si Québec, on organise quelque chose qui est la Convention de Québec, puis Québec quitte la Convention. Puis pourquoi? Puis ça, c'est tellement gênant, me semble. Pourquoi ils ont quitté la Convention? Parce que en appliquant les différentes mesures de la Convention, Erdogan disait que, un, ça promouvoit l'homosexualité, puis deux, il disait que ça causait plus de divorces. Fait que ça veut dire qu'en donnant des droits aux femmes, à cause que, bon, ces femmes-là ont maintenant peut-être un peu plus de droits, puis que maintenant, ils disent « Hey, tu me battras pas », ben là, ça cause des divorces. Puis là, tout est là « Ah, ben là, t'sais, nous, on veut pas des divorces parce que, tu sais, les...
T'sais, c'est
nous,
ça, c'est...
T'sais, nous, la Turquie, on est pour le mariage, puis les gens, tu sais, etc., etc. »
C'est quoi les raisons derrière ces divorces-là? T'sais, est-ce qu'ils s'y intéressaient à ça? Ou justement, tu sais, c'était une grosse partie, puis c'est ça qui était décrit en Pologne, c'est que non seulement ils ont quitté ça en Pologne parce qu'ils disaient c'est un peu les mêmes raisons, là, très conservateur, était comme ça,
gênant,
favoriser
là.
La communauté homosexuelle, lesbienne, bref, LGBTQ+. Mais il y a une grosse partie de ça, c'est contre la violence conjugale. Puis s'il y a plus de divorces, c'était peut-être un signe que ça allait pas, tu sais. Est-ce qu'il s'est intéressé aux raisons derrière le divorce? Peut-être pas, M. Erdogan, tu sais. Le mariage, c'est comme une institution sacrée pour lui, mais c'est comme à tout prix, non, je pense
c'est
pas,
ça.
Là.
C'est un peu... Tu sais, moi, je suis là, oh mon Dieu, tu sais, me semble que c'est gênant. T'as plus le droit de battre ta femme. Maintenant, t'as plus le droit de battre ta femme, il y a des divorces. Ah ben là, c'est pas correct, les divorces. Tu sais, là. Fait regarde, on change complètement de sujet. Moi, je m'en vais dans quelque chose de super impressionnant, autant intellectuellement puis au niveau de la technologie. Puis je parle d'Elon Musk avec ses différents projets. Le projet d'Elon Musk, c'est de créer, avec Starlink, c'est de créer un network, en anglais, là, de satellites pour fournir de la bande passante partout dans le monde, à l'exception, pour l'instant, des régions polaires, puis ça, dès le mois prochain. Il y a déjà 1500 satellites qui sont actuellement en opération, évidemment plus petits satellites qu'à la normale ou qu'on se fait comme conception collectif, qui est en opération en haut de 12 pays. Le service compte déjà 69 000 usagers actifs, mais devrait atteindre plus ou moins un demi-million dans les 12 prochains mois. Puis le but de SpaceX, dont Starlink est une division, c'est de fournir de la bande passante à 5 % de la population mondiale, où la fibre optique conventionnelle puis le sans-fil ne se rend pas. Ma question, c'est est-ce qu'on pourrait s'en servir au Québec ou aux différents endroits où est-ce que le gouvernement parle de connecter puis il se connecte pas? Puis Musk, il dit qu'il a déjà signé des ententes avec des gros pays majeurs, mais qu'il n'a pas pu nommer les pays au moment de la publication.
Théoriquement, le Canada pourrait être à l'intérieur
absolument.
De ces contrôles-là, puis on ne sait pas encore à cause de clauses de non-divulgation ou quoi que ce soit.
J'ai comme l'impression que c'est possiblement des gros pays en termes de superficie. Évidemment, la superficie a un lien
Canada,
direct avec le fait.
Exact. C'est pas si pire, là. Je dirais qu'on
est un gros pays.
Pas mal gros. Après la Russie, c'est le Canada. Donc,
exact. Fait que des gros pays avec le fait que, hey, tu sais, dans le Nord, ils sont tellement loin, entre guillemets, puis la logistique, ou plutôt, je dirais, l'argent impliqué là-dedans, ça doit pas être payant à aller relayer ces gens-là à la fibre optique, là. La compagnie est supposée lancer une nouvelle version des satellites Starlink l'année prochaine, puis ça devrait être des satellites, des Inter-Satellite Laser Links, pour aider à rejoindre les régions polaires. Fait que là, ça veut dire là, que tu pourrais être, je sais pas, hypothétiquement, je veux dire, en Antarctique, pour faire un FaceTime avec moi, pour faire une émission de radio, là, tu sais.
Avec pas trop de lag, mettons.
Pas trop de lag,
si
effectivement.
C'est ce qu'il promet, en tout cas.
Regarde, à suivre, c'est un projet super intéressant. Si on s'en va au Mexique, la Cour suprême du Mexique, ils ont officiellement dépénalisé lundi passé l'usage légal de la marijuana pour les adultes. Il y a 8 des 11 membres de la Cour suprême qui ont déclaré inconstitutionnel une série d'articles de loi mexicaine sur la santé qui interdisait la consommation de cannabis. Les organisations civiles et les spécialistes y applaudissent la décision de la Cour suprême, mais sont quand même conscients que le Congrès doit encore légiférer sur la question. Puis si c'est adopté par le Congrès mexicain, la légalisation du cannabis va faire que le Mexique va être uniquement le troisième pays à avoir légalisé le cannabis au niveau national pour un usage récréatif après l'Uruguay et le Canada.
Le Canada, ben oui. C'est ça, on parle de... Là, tu as parlé de décriminalisation, mais on va rendre légal la marijuana aussi?
Va rendre légal la marijuana au niveau national, au niveau récréatif, effectivement. Fait que, tu sais, là, à savoir s'il va y avoir des dispensaires, à savoir s'il va y avoir des magasins, est-ce que ça va être géré par les États? Est-ce que ça va être géré par au niveau national? Est-ce que c'est juste le fait que tu vas te faire arrêter avec du cannabis puis tu pourras pas être pénalisé? Tu sais, ça, je pense que ça reste à voir pour l'instant. Sinon, on garde au Japon. Je regardais ça, je regardais France 24 l'autre fois. Ils ont un bon petit téléjournal, France 24, que je regarde une fois de temps en temps, parce qu'ils en ont vraiment tout le temps. Tu peux te connecter n'importe quand sur France24.com, puis tu vas voir le dernier journal, puis tu l'as constamment. Puis il y avait des images dans la ville de Atami, qui est une station balnéaire à flanc de montagne, qui est située assez proche, comme en dessous de Tokyo, environ 90 km au sud-ouest. Puis c'est une ville côtière. Il y a eu des méga coulées de boue. C'est super impressionnant d'avoir des coulées de boue. Ça me faisait penser à quand il y avait des grosses inondations, tellement ça rentre vite. Puis évidemment, c'est des coulées de boue qui sont mortelles. Puis il y avait une grosse incertitude qui, par rapport au sort de plus qu'une centaine de personnes, je te dis, là, ça fracassait tout. Tu avais de la boue qui coulait, là, les maisons, on aurait dit du carton, ils partaient, tu vois, les chars, tout, des gros poteaux de téléphone, puis évidemment, un poteau de téléphone, quand ça tombe, ça fait cric-crac, puis ça fait des étincelles, puis du bruit, là. Fait que les autorités, ben là, après ça, tu te rends bien compte qu'il y a des grosses coulées de boue, il y en a une deuxième, là, finalement, les gens disparaissent, puis là, ben, hey, imagines-tu fouiller là-dedans? Tu sais, c'est de la boue, là. Tu sais, j'enlève rien au fait que c'est catastrophique un immeuble qui tombe, comme on a vu la semaine, voilà, 10 jours à peu près, en Floride. Je sais d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils ont sorti un Canadien des décombres de l'immeuble qui s'est effondré.
Il y en a d'autres qui sont en... qui attendent d'être découverts. Oui, hein. C'est ça, malheureusement. Puis on est déjà... On est proche de la trentaine là, de personnes, là, puis le bilan, ça leur dit de plus en plus.
C'est
donc,
sûr, regarde.
Il y avait des centaines de disparus.
On ne fera pas de cachette. Ouais. Là, probablement que les centaines de disparus sont des centaines de gens qui sont décédés dans l'effondrement d'un immeuble.
Ça, ils attendent la confirmation parce qu'on ne peut jamais dire ça d'avance. Ça, mais... ça serait dangereux de dire que quelqu'un est mort alors que genre il revient de voyage puis comme ben non, je ne suis pas mort.
Exact. Mais... Enfin bref, déjà que ça, c'est infiniment compliqué pour des raisons qu'on a parlé la semaine passée. De la boue, là. Faut comme que tu sais pas, t'as des grosses pelles mécaniques, mais t'as des grosses pelles mécaniques, puis t'es
le. Oui, c'est le seul qui a bougé carrément.
Fait qu'il y avait vraiment des. Il y a environ 130 maisons d'autres bâtiments qui ont été détruits ou endommagés. Énorme coulée de boue, ça l'a vraiment balayé, une grosse zone résidentielle en plus. Il y a des maisons qui sont déventrées, des voitures renversées, des amas, un immense bourbier. Puis ça, c'est peut-être indirectement causé par le fait que le Japon est présentement en grosse saison des pluies. Ça provoque souvent des inondations et des glissements de terrain. Puis malheureusement, mais je pense qu'il faut s'en rendre de plus en plus en évidence, comme on a vu au Canada, la ville de Lytton, où on a pogné quasiment 50 degrés Celsius. Ben, selon les scientifiques, le phénomène est accentué par les changements climatiques.
Mais ça n'a pas aidé. Je pense que finalement, là, l'enquête est en cours, là, mais il y a une cause humaine derrière ça. J'espère que c'était pas un birthday party ou même les gender reveal party aux États-Unis qui causent des feux de feu. Et le monde est épais. Mais
il y a clairement, par contre, je pense que les feux de forêt de grosse ampleur, je pense que ça arrive relativement souvent que la cause de base, c'est l'humain, mais ça reste que, tu sais, exemple en Californie, là, pourquoi ça brûlait tant que ça? Ben, parce que c'est fucking sec, là. Tu sais, puis c'est sec, c'est à ça cause des réchauffements climatiques.
Même s'il y a quelque chose d'humain derrière, c'est accentué puis aggravé à cause de cette sécheresse extrême. Il ne faut pas non plus dire c'est juste à cause d'un bonhomme, là. Ça ne serait jamais aussi intense s'il y avait...
Là, il faisait 50 degrés, man. Ah, 50 degrés, là, les écoles fermaient. Là, tout... hey, imagine 50, là. T'imagines 50, tu n'as pas l'air climatisé. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, il fait 30, là, puis mon Dieu, j'ai chaud. Là, je regarde mon frigeur, puis je sue. Là, puis eh bien, là, dans le cas présent, au Japon, apparemment que les changements climatiques, c'est du fait que quand l'atmosphère est plus chaude, ça retient davantage d'eau. Donc, ça augmente le risque et l'intensité des précipitations extrêmes. Fait que j'avais le Chili aussi, mais regarde, on peut juste un petit peu... Là, ce qui avait retenu un petit peu mon attention cette semaine, puis j'en ai pas parlé parce que c'était beaucoup en développement, c'était le retrait américain de l'Afghanistan. On en avait parlé que ça se passait en septembre. Ils voulaient, entre guillemets, souffrir ça par rapport aux attentats du 11 septembre. Mais là, ils sortirent présentement. Puis le fait qu'ils sortirent présentement, ça fait qu'il y a des grosses avancées des talibans. Les talibans, ils se battent fort pour reprendre le pays. Puis hier, une nouvelle que j'ai vue, en fait, ce matin, c'était que tu avais plus que 1000 soldats de l'armée afghane qui s'étaient sauvés au Tadjikistan, juste à côté voisin, parce que justement les talibans sont trop forts pour d'autres, ils sont là, hey, écoutez, moi je vais pas mourir là, parce qu'évidemment tant que les States étaient là, on avait, les talibans ils se tenaient quand même relativement calmes par rapport à leur capacité là.
C'est ça.
Puis là, ben là t'avais la Russie qui sont là, la Russie, ce qu'ils ont dit par rapport à ça, parce qu'on sait que les trois pays là, t'es meilleur que moi pour les nommer, là, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, puis il y en a un autre, c'est des pays qui faisaient partie de l'URSS, puis évidemment ils ont encore une relation avec ces pays là vu qu'ils ont une relation avec ces pays là c'est souvent des pays qui envoient des travailleurs en Russie. Là, ça inquiète les Russes, parce que les Russes sont le crime. S'il y a des terroristes qui vont passer cette frontière-là, qui vont pouvoir se rendre assez facilement en Russie. Là, la Russie a dit, bon, nous, on va protéger la frontière entre l'Afghanistan puis le Turkménistan, parce qu'on veut pas justement avoir des terroristes.
Quand même fou les répercussions, c'est ça qui pourtant ont l'air, lointaines, mais surtout on n'en parle même pas avant. Puis lorsque ça arrive, ben, on se rend compte que une décision à l'international peut affecter plein d'autres pays. Puis là, ça affecte, ben, tu l'as dit, Tadjikistan. Puis là, ben, la Russie, elle s'inquiète parce que le Tadjikistan, ben, a des frontières avec. C'est une ancienne république socialiste soviétique. Il y a d'autres pays à la frontière qui, eux aussi, pourraient être affectés. Donc, tu sais, ça fait un genre d'effet domino ou l'effet papillon, comme on dit. Une décision affecte tout le cours du futur. Fait que, parlant de futur, ben, je pense que ça va être notre gros dossier. On va suivre ça de très près. Est-ce que ça va se développer ou ça va se résorber, cette situation-là? On espère que ça se résorbe. Il y a, tu sais... Oui, il y en a qui ont désaffecté, mais là, l'armée afghane a décidé d'envoyer encore plus de soldats sur le terrain pour contrer ces avancées-là, pour contrer peut-être ces déserteurs, et ainsi de suite. Fait que gros dossier à suivre. On espère que ça va pas s'aggraver trop, mais ça risque probablement de revenir dans nos nouvelles
Moi, j'ai bien l'impression que ça va faire un peu un gros maelstrom. Là. Ça va faire un petit peu un bordel, parce que les talibans ils vont vouloir reprendre le pays. Est-ce que les forces afghanes ont la capacité? Il y aura plus vraiment de surveillance aérienne? Comment que les différents pays voisins, qui sont un certain nombre hostiles aux États-Unis, comment est-ce que les États-Unis vont pouvoir, ou la communauté internationale vont pouvoir assurer que ça ne devient pas, je veux dire, un endroit de formation de terroristes et de gens qui vont vouloir attaquer, je veux dire, n'importe où.
C'est très dur à dire vu la situation qui est très, très, très jeune, mais c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de questions à se poser. Puis déjà, peut-être que la Russie va pallier à ce manque-là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Chine va s'impliquer? Elle qui a aussi, tu sais, qui regarde la région avec un œil inquiet aussi, je pense. Fait qu'il y a plusieurs grands joueurs qui pourraient s'intéresser à cette région-là, puis qui pourrait faire évoluer la situation différemment peut-être que comment les États-Unis l'ont fait dans le passé. Écoute, sur ce, ben, on va se laisser, Sébastien. Nous, on se retrouve dans 7 jours pour une autre émission de Chez le voisin, puis on vous retrouve avec plus d'infos la prochaine fois. Ciao tout le monde.
Vous écoutez Chez 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision?